Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Le petit enfant ne semble pas comprendre tout ce qu'on lui dit. Il assimile pourtant ce qu'il entend et d'ailleurs comprend beaucoup mieux que ce que l'on imagine. Cela va jouer dans le fondement de son propre langage, bien sûr, mais ainsi que dans la personne qu'il va devenir. Il est donc indispensable de parler à son enfant. Mais comment ? De quoi lui parler ? À quoi cela sert-il ? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Monique Bonnet, qui est puéricultrice, et Gérard Monnet, qui est psychanalyste et enseignant-chercheur à l'EPCI, l'école de propédeutique à la connaissance de l'inconscient, ainsi qu'à l'école de l'hôpital des Diaconesses à Paris. Et ils sont tous les deux co-auteurs de l'ouvrage « Comment parler aux tout-petits », un livre qui paraît aux éditions InPress. Si vous avez envie de participer, de poser des questions, de donner votre point de vue, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, nous aurons également au téléphone Ibrahima Girou, qui est docteur en psychologie cognitive et spécialiste du développement de la petite enfance à Dakar au Sénégal. Et en fin d'émission, comme tous les mercredis, puisque c'est la rentrée maintenant, on retrouvera la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo. Monique Bonnet et Gérard Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour
à tous les deux d'être là pour parler de ce sujet essentiel qui nous passionne tous, finalement, comment parler aux tout-petits. Gérard Bonnet, vous commencez ce livre avec la signification du mot « enfant ». Je ne m'étais jamais posé cette question-là. Et « enfant », c'est incroyable, c'est non-parlant, c'est ça ?
Voilà, alors, en général, hein, l'interprétation qu'on en donne, c'est « infants », en latin « fans », c'est « parler ».
Donc « infants », c'est celui qui est sans parole.
Celui qui ne parle pas. Ouais. Alors, en fait, et là, j'en avais discuté justement à l'époque avec François Zolto, et on se disait, c'est complètement idiot, parce que c'est pas celui qui ne parle pas, c'est celui qui a « infants », la parole en lui. « In », dedans. Fans, ça veut dire que ça parle en lui. Et ça parle en lui beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Et donc je pense que c'est important de renverser cette expression. Parce qu'au fond, la traduction, je veux dire qu'elle est devenue banale, mais elle n'est pas réelle. On peut très bien jouer avec les signifiants comme
les
ça.
Les mots, justement.
Voilà, les mots. Et dire que l'enfant, c'est en effet quelqu'un qui a la parole au fond de lui.
Monique Bonnet, cette phrase qu'on entend et que j'ai citée en début d'émission, il ne peut pas comprendre, on l'entend encore beaucoup et en fait il comprend beaucoup mieux que ce qu'on imagine, même tout bébé.
Tout à fait, pour moi un enfant est à respecter parce qu'on ne sait pas ce qu'il pourra devenir et un enfant pour moi est toujours en attente d'être reconnu et attend qu'on lui parle. Même le nouveau-né qui n'a que quelques minutes, quelques heures, si vous prenez le temps de le regarder, de lui parler, vous le voyez très attentif. Regardez vers vous et attendre ce que vous allez en dire. Il ne le comprendra pas, mais il y a un premier contact qui lui signifie qu'il est quelqu'un et qu'on va lui apporter quelque chose. Donc, il ne comprend pas tout, mais la façon dont on lui parle, le regard,
le ton,
s'imprègne en lui et signifie quelque chose, et il le retiendra.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on n'en sait rien de ce qu'il comprend ? C'est-à-dire qu'on n'en connaît pas encore assez sur le tout petit pour savoir franchement ce qu'il comprend ?
Absolument, puis de toute façon, il faut se dire que in utero, l'enfant entend. L'enfant passe sa vie intra-utérine à sentir ce qui se passe autour de lui. Il connaît la voix de son père, il connaît la voix de sa mère. Il a eu peut-être le contact, le toucher d'un frère ou d'une sœur. Donc, oui.
Gérard Bonnet, vous êtes d'accord avec ça ? Finalement, il y a encore plein de recherches à mener sur ce que comprend le bébé.
Tout à fait. Oui, là, il y a bien sûr deux types de recherches. Hein, la recherche neurophysiologique qui essaie de retrouver des traces, et ça n'est pas commode. Et puis, il y a la recherche analytique où là, on a des retours très très tardives quelquefois, de choses qui ont été senties et entendues précocement. Il y a une théorie analytique qui est très présente actuellement, qui parle de ce qu'on appelle des signifiants énigmatiques, c'est-à-dire que tout ce qui est entendu s'inscrit dans l'esprit de l'enfant. C'est pour ça qu'on parlait de comprendre tout à l'heure, il comprend pas au sens intellectuel, mais si vous, là encore, vous décomposez le mot, c'est prendre à l'intérieur, comprendre, c'est prendre avec. Hein. Il prend tout, hein. J'allais dire que l'enfant ramasse tout.
Une éponge.
Hein. C'est une éponge. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, tout ce qu'il a entendu, les mots, les expressions, celles qui reviennent toujours, qu'on sort un peu à travers tout, ça s'inscrit en lui. Et d'ailleurs, on voit quelquefois, au bout de quelques années, les enfants reprendre les tics verbaux de leurs parents, alors qu'on ne leur a pas appris. Donc, je crois que c'est, même si on ne peut pas le prouver, scientifiquement actuellement, parce que on n'a pas encore les moyens neurophysiologiques suffisants, je suis pas sûr qu'on y arrivera d'ailleurs, nous en tant que psy, on sent cette présence, cette prégnance, j'allais dire, et qui va avoir des effets considérables par la suite.
Et qui ressort à l'âge adulte. Et on est bien d'accord dans cette émission, et d'ailleurs dans votre livre, c'est ce qu'on fait, on part du postulat d'une évidence, on doit parler à l'enfant. On discute. Oui. Toute la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment on lui parle.
C'est comment, voilà.
Ouais, c'est ça, on est bien d'accord.
Pour ça qu'on a voulu écrire ce livre,
d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc on est d'accord, il faut lui parler. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a plus personne pour dire qu'il ne faut pas lui parler.
Bah, je crois.
Maintenant, toute la question, c'est comment, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors justement, comment parler à son enfant? Cela vient naturellement, répond Armelle, qui est une jeune maman en région parisienne. Son fils Vianney vient de souffler sa première bougie. Dès qu'il peut, il se met debout, bouclette blonde et yeux bleus rieurs. Vous allez l'entendre, il est déjà bavard. Charlie Dupio est allé les rencontrer, donc lui et sa mère, à l'heure du goûter, un moment crucial.
Maman, une cuillère pour bébé.
Yeah.
Oui, t'as faim. Tu prends la cuillère.
Yeah.
C'est bon le yaourt, c'est frais.
À quel moment vous avez commencé à lui parler ?
Je lui ai toujours parlé, en fait, depuis que je suis enceinte. Enfin, que j'ai été enceinte de lui, ouais. Mais en fait, j'ai commencé surtout à lui parler quand j'ai commencé à le sentir bouger, en fait. Parce qu'avant, c'était difficile de me rendre compte qu'il était là. Et en fait, ça a correspondu au moment où j'ai perdu quelqu'un dans ma famille. Et du coup, j'avais lu des choses qui, sur le fait que le bébé dans le ventre, il ressent les émotions de la maman, que ça laissait un peu une empreinte. Je me suis dit, je vais verbaliser les choses pour... Et du coup, j'avais commencé à parler à ce moment-là, en fait, à expliquer des choses.
Mais donc, concrètement, ça voulait dire parler à votre ventre, en fait.
Oui, c'est ça. Mais c'était pas évident, parce qu'en fait, en plus, moi, j'avais pas encore d'enfant, c'est mon premier, donc tu sais pas trop comment faire. Et j'ai fait un peu de chant prénatal. On chante pour soi, pour son bébé, on joue avec les sons et tout. On s'adresse au bébé.
Et par exemple, qu'est-ce que ça pouvait être, les chants prénatals ?
Qu'est-ce qu'on chantait, Vianney, avec papa ? Sache que tu peux naître que toi-même, parce que sans te connaître, sache que l'on t'aime. Et en fait, on chantait ça, c'est le refrain, t'as des couplets.
Et donc, après la naissance, comment vous avez commencé à lui parler ?
Bah, tout de suite aussi, dès qu'il est sorti de mon ventre, en fait. En plus, lui, à la naissance, il a pas respiré tout de suite parce qu'il avait le cordon autour du cou. Et du coup, dès qu'il est sorti, on lui a dit « Allez bébé, allez, vas-y, accroche-toi !» Je me rappelle lui avoir dit des fois « Vianney, je sais pas ce que t'as, c'est trop dur !»« Je sais pas ce qui t'arrive, mais bon, on va y arriver !» Et en fait, c'est naturel. Tu te dis, quand on va devenir parent... On prendra pas une voix niaise, on parlera pas comme des débiles, et en fait, instinctivement, tu le fais.
Et comment on parle à quelqu'un qui ne répond pas ?
Lui, il amène sa manière de communiquer d'un enfant d'un an, et en fait, ce qui est fou, c'est que tu t'adaptes vraiment à ton bébé. Ta façon de s'adresser à lui, elle s'adapte vraiment à son âge, à ses capacités.
Parce qu'il pointe du doigt les objets qu'il ne connaît pas.
C'est ça, en ce moment... Il veut qu'on étiquette tous les mots autour de nous. Là, quand en ce moment, il est dans les explorations motrices, du coup, on est derrière lui, on lui dit « Allez, tu vas y arriver, il faut que tu t'entraînes. » Parler à son petit, pour moi, c'est vraiment un plaisir quoi, d'échanger avec lui. « Ah, qu'est-ce que t'as trouvé, là ?» Il est trop fier de sa trouvaille. Mais en fait, ça vient aussi naturellement parce que quand on fait ça, du coup, on est dans le lien. Moi, je lui dis beaucoup « je t'aime, t'es merveilleux ». Voilà, je transmets mes sentiments pour lui. Après, le papa, il passe plus par les bisous, les câlins, par exemple, pour lui dire ça. Mais là, on sent qu'il essaye de répéter des mots. Il commence à dire « encore ». Ça, on dit tout le temps avec un petit... La vache. Oui.
La vache. Mmh.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous essayons de voir comment parler aux tout petits avec Monique Bonnet et Gérard Bonnet. Monique Bonnet, j'aimerais bien votre réaction à ce témoignage d'Armel.
Je trouve que c'est sympathique et très vrai. C'est tout à fait comme ça qu'il faut procéder. En fait, il faut aussi se rappeler, enfin, il faut aussi se dire que la communication avec le fœtus se fait par l'aptonomie. Elle a pas parlé.
Le toucher.
Par le toucher et même en touchant, vous communiquez, vous parlez au bébé. Donc il y a ça aussi à réfléchir, mais c'est très spontané et c'est tout à fait comme ça que je...
Qu'il faut faire, c'est ça.
Voilà, je fais les choses encore aujourd'hui et on a fait les choses comme ça aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, il n'y a pas de souci.
J'ai un bonnet.
Ah bah écoutez, je trouve ce petit témoignage admirable parce que ça, on sent cette, j'allais presque dire une intuition. C'est pas du appris par cœur qu'il faut faire ou pas faire. C'est une maman qui, à partir de ce qu'elle vit en profondeur, parle naturellement. Et ça, c'est vraiment la meilleure des choses.
Hein. Vous dites d'ailleurs dans votre livre qu'on parle de l'enfant avant de lui parler. Et,
oui.
Et que cette parole-là, elle est aussi importante.
Ah oui.
La façon dont on parle à son entourage.
C'est-à-dire que, bon, là, bien sûr, il n'y en était pas question dans l'exemple, mais c'est vrai que, inévitablement, dès qu'on est enceinte, que le bébé s'annonce, on commence à faire des projets, on commence à se dire, surtout après, quand par l'échographie aujourd'hui, on commence à savoir quel est son sexe, etc. On parle de lui, on pense à son... Donc, comment on va le nommer, comment on va l'installer. Et je crois que cet univers-là est aussi important. C'est-à-dire qu'au fond, la parole du groupe social dans lequel arrive l'enfant. Hein, donc, il faut faire attention quelquefois, de se dire qu'est-ce qu'on va dire. En fonction du sexe, bon, c'est peut-être pas l'idéal parce que on espérait quelqu'un d'autre, mais qu'on le dise dans une vérité qui puisse circuler par la suite. Hein.
Autrement dit, une bienveillance.
Voilà.
On a au téléphone, alors les auditeurs sont nombreux à appeler pour vous poser des questions ou apporter des témoignages. On a Patrick qui nous appelle de Douala au Cameroun. Patrick, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Patrick.
Oui, ma préoccupation est la suivante. J'ai mon fils qui a perdu ses deux grand-mères maternelles et grand-mère paternelle. Et il était tellement attaché à ces deux êtres. Et depuis, je ne sais comment. Depuis, je ne sais comment l'aborder parce que depuis un certain temps, il est triste. Il n'arrive pas à dialoguer et il a des hausses de température la nuit. Donc, je ne sais comment l'aborder.
C'est ça, comment lui parler et comment lui en parler de ces événements. Qu'est-ce que vous lui avez dit, justement, sur le décès de ses deux grands-mères?
Je lui ai dit, ses mamies sont parties, elles font un voyage, mais je pense qu'elles reviendront un de ces quatre. C'est ce que je lui ai dit lors de ce décès. Ouais.
Et quel âge a votre enfant?
Oui, c'est ça qui importe.
Il a 5 ans et demi.
Il a 5 ans et demi. Alors, une réaction par rapport à ça, Gérard Bonnet. Qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant qui a perdu ses deux grands-mères?
C'est très important à l'âge. Hein. Je crois que là, 5 ans et demi, il peut entendre. Hein. Et donc, c'est tout à fait essentiel, comme l'a fait ce monsieur, mais peut-être plus concrètement.
Hein, dire... C'est pas simplement elles sont parties.
Non, elles sont mortes. Tu sais, tous les êtres humains meurent un jour, et elles ont une longue vie, et une belle vie, tu les as aimées parce qu'elles étaient là, et ça s'est arrêté. Et tu sais, tu en verras d'autres, parce que les parents aussi mourront un jour. C'est-à-dire que je crois que cette nomination de la mort, vous voyez, là, c'est parler de la mort à l'enfant, il peut très bien entendre. Et au contraire, ça va s'intégrer dans son psychisme, et voilà,
Et de toutes les manières, il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Mais bien sûr.
C'est ça qu'on entend dans ce que dit Patrick.
Oui, oui. Et puis en plus, s'il était attaché à ses grands-parents, il est normal que ça lui paraisse vraiment très dur de ne plus les voir. Mais au lieu de laisser planer cette possibilité d'eux, ou qu'ils seraient ailleurs, enfin, bien sûr, il y a la question des religions qui peut ouvrir à un autre espace. Mais dans la plupart des cas, je crois que de toute façon, il faut marquer la question de la mort assez tôt chez l'enfant. Quoi qu'on pense, il peut très bien l'entendre.
Et prononcer le mot.
Et prononcer le mot très tôt.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Monique?
J'ajouterais que l'enfant, est sûr, dès 5 ans et demi et même avant, a besoin de vérité. Il a senti, il a compris des tas de choses et ça ne colle pas le voyage. Ça ne colle pas. Donc, le papa, ça serait souhaitable que le papa lui dise la vérité et lui explique ce qu'il a vécu lors des décès des deux grands-mères, que ça n'a pas dû.
On imagine bien que les parents, ça a dû
tout
être dur.
De suite et en même temps.
Non, c'est à 3 mois d'intervalle, hein, quand même.
Oui, voilà. C'est quand même pas évident.
Mais. Donc l'enfant a senti, a vécu.
Forcément la tristesse des parents, ne serait-ce que ça.
Le deuil de la famille, le deuil de l'entourage.
Donc. Patrick, ça vous paraît possible, ça, maintenant, du coup, de le dire plus concrètement à votre enfant?
Pour moi, ça me fait un peu bizarre parce que c'est un enfant vraiment qui a eu beaucoup de stress et sa dernière grand-mère avec qui il a vécu, vraiment c'est elle qui l'a gardé parce que c'est un enfant qui a été abandonné par sa maman. Elle l'a laissé au moment où il avait plus besoin d'elle. Donc c'est moi qui ai de 7 mois jusqu'à cet âge-ci, je l'ai gardé comme papa, je l'ai gardé comme maman. Donc bref, c'est sa grand-mère qui jouait presque tout. Non, c'est un peu ça. Je ne sais comment l'aborder. Parce
et Patrick, que moi, ce que j'entends dans ce que vous dit à la fois Monique Bonnet et Gérard Bonnet, que c'est pire de ne pas lui dire. C'est ce que j'entends dans ce qu'ils disent. C'est ça, hein, Gérard Bonnet.
Oui, oui. Je crois que, bien sûr, c'est dur hein, de dire les choses aussi concrètement. Mais de toute façon, c'est encore pire, en effet, de laisser planer un imaginaire qui va passer à côté de la réalité. Et le jour où il réalisera, ce sera encore plus dur. Donc, je crois que c'est vrai que je comprends votre peine, c'était terrible, mais le mot mort n'est pas forcément un mot traumatisant pour un enfant si on sait le lui dire tranquillement et lui montrer que ça fait partie du destin de l'homme.
Monique, Baudet ?
J'ai entendu que cet enfant a été abandonné par sa mère. Donc, réfléchissons que cet enfant se dit « j'ai été abandonné par ma mère », mes deux grands-mères m'abandonnent d'une certaine façon. Il faut que vous, à mon sens, il faut que vous insistiez sur le fait que vous êtes là, vous serez toujours là pour lui et que vous ne l'abandonnerez pas.
Et que les deux grands-mères, en l'occurrence, ne l'ont pas abandonné, c'est juste qu'elles sont décédées.
Absolument, voilà. Absolument.
C'est donc, quelque chose de différent de l'abandon.
Voilà, tout à fait.
Alors que le voyage peut donner cette idée.
Oui. Hein? Pourquoi elles sont parties? Pourquoi elles ne sont pas occupées de moi, franchement?
C'est qu'il y a mieux ailleurs.
Oui. Hein? Patrick, est-ce qu'on a réussi à vous convaincre?
Vous êtes convaincant. J'ai été convaincu, très convaincu.
Et alors moi, Patrick, parce que ça m'intéresse toujours de savoir ce qui se passe après chez nos auditeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous en parlez à votre enfant, vous nous rappelez après pour qu'on en parle et dites-nous justement comment il a réagi. Ça nous intéresse aussi de savoir. Merci beaucoup, Patrick. Bon courage à vous, hein, parce qu'on conçoit bien que c'est difficile d'aller lui parler de tout ça. On a Cabinet qui nous appelle de Conakry, en Guinée. Cabinet, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute.
Je vous appelle de Conakry, précisément à Simbayaga. Et j'avais une série de questions sur vous concernant l'émission.
Allez-y, on vous écoute.
J'ai un garçon de 8 mois qui est très joyeux, qui rit beaucoup, avec qui souvent je lui parle en le fixant dans les yeux comme si c'était un ami à moi. Donc mes questions sont les suivantes. Je voudrais savoir, est-ce que parler à un enfant a un impact sur son développement? Et est-ce qu'il y a des moments propices où il faut privilégier pour parler à l'enfant? Et troisièmement, quel conseil vous donnez à tous les papas pour qu'ils évitent de créer un fossé entre eux et leur enfant depuis le bas âge?
Alors,
je remarque que chez moi, ça a été le cas. Mon papa et mon oncle tuteur avec qui j'ai grandi, il n'y a pas eu ce dialogue entre père et
du coup, il y a un fossé. Alors, Cabinet, vous restez en ligne avec nous. On vous répond juste après les informations, donc dans 3 minutes.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous essayons de voir comment parler aux petits-enfants avec Monique Bonnet, qui est puéricultrice, et Gérard Bonnet, qui est psychanalyste et enseignant-chercheur à l'école de propédeutique et à la connaissance de l'inconscient, ainsi qu'à l'école de l'hôpital des Diaconesses à Paris. Et ils sont tous les deux co-auteurs de l'ouvrage « Comment parler aux tout-petits », un livre qui paraît aux éditions Une Presse. Et je vous rappelle le numéro de téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et juste avant les informations, on était en ligne avec Cabinet de Conakry, qui a un fils qui a 8 mois, il lui parle beaucoup haut, il lui parle comme à un ami, il rigole avec lui. Et Cabinet, vous êtes toujours en ligne avec nous, vous aviez 3 questions à poser à nos invités. D'abord, l'impact de cette parole sur le développement de l'enfant, Gérard Bonnet.
Il ne peut être que positif, hein, à une condition, c'est quand ce monsieur dit « à un ami ». Non, hein, c'est pas un ami, hein, c'est un enfant. Donc il faut faire attention aussi de pas le prendre comme un confident. Il faut le prendre comme un interlocuteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a sa vie à lui, et le papa a sa vie à lui aussi, et chacun échange, enfin pas encore bien sûr, là il peut pas encore échanger, mais au moins qui parle naturellement de ce qu'il vit.
Et qu'est-ce que les études ont montré sur l'importance de cette parole sur, entre guillemets, le développement cognitif, c'est-à-dire tous les apprentissages dans la suite ?
Oh ben, toutes les études sont positives, hein. C'est-à-dire que vraiment on s'aperçoit que plus les enfants ont été dans ce bain de langage dont nous parlions tout à l'heure, plus ils se développent naturellement, j'allais presque dire spontanément. Hein. Donc là il n'y a aucune réserve à ce niveau-là.
Tout à fait. Deuxième question, est-ce qu'il y a un moment précis où il faut plus parler avec lui dans la journée, Monique Bonnet, ou il faut lui parler tout le temps?
Il faut que le papa ait son spontané, mais c'est vrai que quand l'enfant est petit, il a besoin d'être changé. Et pour moi, change et change. Donc c'est un moment...
Le changement de couche est un bon moment pour parler avec son petit, d'ailleurs, parce qu'on est bien en face à face.
Voilà, hein, tout à fait.
Et puis on manie le corps.
Voilà, et puis on peut jouer avec lui... Voilà, nommer les choses, c'est un moment vraiment particulier, propice.
Gérard Bonnet, justement, ce lien avec le corps est aussi un moyen d'échange et de parole.
Oui, alors, je crois qu'il est important aussi de dire que la parole doit s'incarner. Hein. D'ailleurs, c'est un des thèmes religieux classiques, hein, c'est-à-dire qu'au fond, la parole n'a de sens que si, en même temps, le corps est pris en considération. C'est pour ça qu'en effet, le moment du change est privilégié. On manie le corps et il faut que cet enfant qui se sent pris, se sent manipulé, on va dire, en même temps entende des mots qui donnent du sens à ce qu'il vit. Et qui vont, j'allais dire, donner à son corps aussi une signification collective et non pas seulement individuelle.
Hein ? La troisième question de Kébini, c'est comment lui parler pour éviter au maximum qu'un fossé se creuse entre moi et mon enfant quand il grandira. En gros, j'ai pas envie de reproduire ce que j'ai eu avec mon père et avec mon oncle.
Voilà.
On est tous pareils, on ne veut pas reproduire la même chose. On veut faire mieux.
Voilà. Non, mais je crois que là, ce monsieur a très bien compris, hein, il suffit d'être spontané, naturel, et il reproduira certainement pas les mêmes choses. Surtout... qu'il fasse attention, là c'est petit, hein, 8 mois, c'est pas compliqué, ce sera un peu plus difficile quand tu auras des petites crises.
Ah oui, l'adolescence, de manière, sera plus compliqué, ne nous l'aurons pas.
Même avant, vers des problèmes de propreté, des problèmes de... Voilà, donc, qu'ils se disent, je n'interromprai jamais
le dialogue. Ça, c'est ça qui est important. Voilà. Cabinet, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions?
Oui, franchement, vous avez bien répondu. Maintenant, au niveau de la deuxième question, là où j'ai dit le mot... moment propice pour parler avec l'enfant. Maintenant, monsieur dit que pendant qu'on change ses couches, quand il a fait ses besoins, mais c'est que moi, je passe plus de temps au travail qu'à la maison, donc je n'ai pas la chance de lui changer les couches souvent.
Non, mais il y a déjà le matin et le soir.
Voilà. Non, tous les moments privilégiés, hein. Tous les moments où vous êtes vraiment en contact avec lui, c'est ça qui est important.
Hein? Non, mais du coup, on vous a convaincu de l'importance de changer votre bébé.
Voilà.
Pour les nouveaux papas.
De toute façon, je pense que vous ferez toujours mieux que votre papa, puisque on a deux interviews, là, et deux fois, c'est un papa. Donc, je crois que vous faites mieux que votre papa, déjà.
Déjà.
Bon,
bon courage à vous avec votre petit-fils de 8 mois. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On a au téléphone Ibrahima Giroud, qui est docteur en psychologie cognitive, spécialiste du développement de la petite enfance à Dakar, au Sénégal. Ibrahima Giroud, bonjour.
Oui, bonjour Claire et bonjour à vos invités.
Vous présidez un groupe Éduchance Coaching spécialisé justement dans la parentalité et les innovations pédagogiques. Vous avez publié un livre « Développer l'intelligence de votre bébé », guide pour interagir avec les bébés de 0 à 3 ans. C'est aux éditions Éduchance. Comment les mamans et les papas d'ailleurs, vous avez raison, parlent-ils à leurs enfants au Sénégal, Ibrahim Agirou?
Disons que c'est une question assez ouverte parce que ça dépend du milieu socio-professionnel.
Ouais.
Vous avez des parents beaucoup plus ouverts, surtout dans les milieux urbains, qui vont être très engagés avec leurs enfants, qui vont essayer de leur parler avec des mots adultes, vraiment ce qui est recommandé sur le plan scientifique. Maintenant, vous avez aussi des parents dans les milieux un peu plus défavorisés où l'urgence, c'est vraiment de nourrir l'enfant, c'est moins de communiquer avec l'enfant.
Mmh. Mmh.
Donc, dans ces milieux pauvres, il ne s'agira surtout pas de passer beaucoup de temps à essayer de développer l'intelligence cognitive de l'enfant, mais davantage à développer ses facultés physiques, notamment l'alimentation et la nutrition, et encore quand les moyens le permettent.
Mmh.
Donc, on n'est pas dans le même.
Dans les généralités. Il y a de grosses différences, mais je pense qu'on pourrait voir des grosses différences aussi chez nous, dans les populations en situation de précarité, sur la question justement du dialogue avec l'enfant. Ibrahim Agirou, quelles sont, de manière assez générale, les pratiques qui sont néfastes à ce dialogue et à cette évolution de l'enfant? Et qui sont encore pratiquées?
La première chose, c'est l'ignorance. Que ce que vous avez en face de vous, que vous appelez un enfant, c'est avant tout un être humain. Et ce que vous avez plus tard, un adulte, vous l'avez déjà chez cet enfant-là, comme une guirlande que vous détendez, qui s'allonge, et quand vous le laissez se retrouver, il devient petit. En fait, les gens n'ont pas cette perception-là. Et en défaut de cette perception, on a tendance à penser que ce n'est pas nécessaire de parler à ça désigne à l'enfant, tant que ce n'est pas capable de parler lui-même. Donc ça, c'est une des pratiques les plus néfastes parce que ça génère de la négligence au niveau de la communication et ça laisse la porte ouverte à toutes les formes de violence physique, verbale et psychologique qui peuvent suivre. Et comme on a pu les constater dans les milieux ruraux, dans les milieux les plus pauvres au Sénégal.
Donc premier point important, on a en face de soi un être humain et pas ça, justement.
Mmh. Exactement. Mmh. C'est vraiment un être humain à part entière. Et il ne faut pas se tromper par la taille de cet être humain-là. L'esprit est quelque chose d'absolument différent de ce que le corps est. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit est tellement intelligent que dans un premier temps, il ne s'agit pas nécessairement de s'exprimer, mais plutôt de comprendre. Et ça, c'est de l'intelligence. Même un proverbe français le dit, si parler est d'argent, le silence est d'or. Mais le silence ici, ça doit être compris dans le sens de la compréhension. Quand vous dites langage, vous dites langage produit, donc quand on parle, mais aussi langage entendu, dans le sens de comprendre. Et l'enfant essaie de comprendre avant de parler. Donc ça veut bien dire que la façon dont l'enfant se développe est une façon absolument intelligente. Là, c'est de l'intelligence purement biologique.
Et quelles sont les autres pratiques néfastes?
Parmi les pratiques néfastes, je l'ai dit, certainement la violence est une des pratiques les plus néfastes, mais après vous avez des formes de communication absolument pauvres, comme une répétition des onomatopées, poutou, 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 poutou. Vous voyez ça beaucoup dans les villages. Donc, au lieu d'utiliser des mots assez adultes, ce qui doit changer, c'est l'intonation, c'est la forme. Quand on parle à un enfant, c'est pas la même chose que quand on parle avec un adulte. Mais le contenu, lui, il doit être absolument adulte, riche. Maintenant, on peut y mettre les formes pour montrer de l'affection en permanence quand on parle à un enfant. C'est-à-dire que quand je dis à un adulte, nous allons aller à Paris, je ne vais pas le dire de la même façon à un bébé. Je peux dire au bébé, ah, nous irons à Paris. Ouais, il y a l'intonation de la voix qui va montrer. Mais le contenu, lui, est le même. Alors que dans les milieux où cette information n'est pas disponible, on a tendance à utiliser un contenu très, très pauvre qui fait que les enfants n'ont pas un vocabulaire riche au moment où ils doivent aller à l'école et ça entraîne en cascade les effets de la difficulté scolaire et plus tard un peu des échecs au niveau professionnel.
Et donc là, vous répondez en disant ça, vous répondez d'ailleurs beaucoup à la question que nous posait Cabinet tout à l'heure. Pourquoi c'est important dans le développement de l'enfant de lui parler? C'est entre autres pour ce développement cognitif, l'apprentissage, le vocabulaire.
C'est exactement ça. C'est vraiment pour la stabilité émotionnelle avant tout. C'est-à-dire que quand on parle en enfant, la raison pour laquelle dans toutes les cultures du monde, il y a beaucoup d'intonation dans la voix, il y a beaucoup de chaleur humaine dans la façon de parler à l'enfant. C'est parce que les cultures ont compris l'importance de stabiliser émotionnellement les enfants. Parce qu'une fois que cette stabilité, cette sécurité émotionnelle est posée, on peut développer dessus toutes les autres formes d'intelligence. Donc un enfant avec lequel on parle le moins va se développer beaucoup moins qu'un enfant avec lequel on a eu une communication riche, diversifiée et évidemment basée avant tout sur le développement émotionnel.
Gérard Bonnet, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Vous le développez dans votre livre sur toute la question de la relation bienveillante.
Oui. Pour ça, j'apprécie ce qui vient d'être dit là par rapport à l'émotion. Hein, parce que l'enfant, non seulement reçoit des mots, mais reçoit aussi des affects, hein, ce qu'on appelle donc une impression de bienveillance, d'amour, de tendresse, mais aussi, à certains moments, quand quelque chose ne va pas, il ressent aussi nos émotions négatives. Je veux dire que, au fond, je crois qu'il encaisse, pour employer un mot violent, aussi bien nos joies que nos peines. On parlait tout à l'heure de deuil. Hein. Ça passe tout seul, ces choses-là.
Il le sent.
Il le sent. Donc, qu'il y ait des mots en même temps est tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'au fond, les mots viennent habiller et permettre de renvoyer ce qui a ressenti. Donc, je pense qu'en effet, là, ce qui vient d'être dit est tout important. À fait important.
Ibrahima Giroud, du coup, je voudrais vous faire réagir. J'imagine que vous avez écouté la première partie de l'émission et vous avez entendu Patrick Adouala, dont son enfant a perdu ses deux grands-mères et qui lui a juste dit « les grands-mères sont parties ». Et le conseil de Gérard Bonnet, c'est vraiment de dire « mais non, il faut dire qu'elles sont décédées, qu'elles sont mortes, il faut mettre des mots ». Ibrahima Giroud, est-ce que vous voyez encore beaucoup ça au Sénégal où finalement, on n'ose pas dire aux enfants sous prétexte de pas vouloir leur faire de peine?
Oui, il y a du bon dans le fait de dire l'exacte vérité aux enfants, mais il y a aussi des travers dans tout ça. Donner une information aussi dure aux enfants sans pouvoir assurer derrière un suivi, parce qu'on ne sait pas ce que cette vérité-là va créer comme transformation au niveau cognitif, au niveau affectif chez l'enfant. Donc quand on donne certaines informations aux enfants, il faut être sûr de pouvoir assurer le suivi derrière. Maintenant, dans le contexte africain, il faut, sénégalais en particulier, le proverbe voudrait que la paix soit supérieure en qualité à la vérité. Donc tout ce qui peut amener la paix à l'enfant, les cultures vont plutôt privilégier cette approche-là. Donc voyez, là,
La paix est supérieure à la vérité. Mais est-ce qu'on peut avoir la paix? Ibrahima Giroud, on peut lancer un débat philosophique. Est-ce qu'on peut avoir la paix sans vérité?
Oui. Dans notre contexte ici sénégalais, la vérité pour la vérité, c'est une affaire de perdant, c'est une affaire de loser. Au-dessus de la paix, il y a la vérité. Il faut qu'on utilise la paix pour créer de la... la vérité pour créer de la paix.
Gérard Bonnet veut réagir.
Je réagis parce que je viens de faire...
C'est un débat philosophique.
Par hasard. Non, puis je viens de faire un livre sur l'idéal.
Ah oui.
Et la vérité est un idéal capital, pour moi, dans toutes les cultures. Alors, bien sûr, il y a une façon de la dire. Et une façon, comme vous dites très justement, de l'accompagner. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'asséner à l'enfant une vérité, puis lui dire « débrouille-toi ». Il s'agit simplement de mettre des mots justes et de les porter avec l'enfant jusqu'à temps qu'on sent qu'il l'a assumé. Mais je crois que l'idéal de vérité est fondamental chez l'enfant. Et on voit des enfants à qui on n'a pas dit la vérité produire des symptômes, enfin nous dans la psychanalyse, qui sont quelquefois stupéfiants. Jusqu'à temps qu'on convienne enfin de lui dire ce qui s'est passé.
Vous racontez d'ailleurs dans votre livre l'histoire d'un enfant dont le grand-père avait créé un bar à côté d'un pont, justement, non pas à côté d'un pont, à côté de... j'ai oublié l'histoire, pardon.
C'était un garde-barrière.
D'un passage à niveau, voilà, d'un garde-barrière qui avait créé un bar. Racontez-nous l'histoire.
Ah oui, écoutez, là, c'est... Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, on n'a jamais dit ce qui s'était arrivé à cet homme qui, au moment où on a supprimé ce passage à niveau, donc a perdu son emploi, et puis même, j'irais presque dire, son aura, hein, parce qu'il avait là une fonction, et puis on n'a rien dit à l'enfant. Et à l'âge adulte, et là je peux vous le dire parce que je l'ai constaté à l'hôpital psychiatrique, on a vu cet homme qui a perdu à un moment donné les pédales pour un problème grave, et qui se promenait en
sifflant,
avec un sifflet, comme s'il était chef de gare. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fallu qu'au bout d'un moment, on puisse retrouver l'histoire, la lui faire raconter, pour le libérer d'un problème qui datait de son enfance.
Oui, et qui datait des grands-parents, en gros, en l'occurrence. Voilà. Absolument. Voilà. Ibrahim Mejirou, juste une dernière question. Quels sont les conseils que vous donnez aux parents pour développer l'intelligence de l'enfant? On avait fait une émission ensemble quand j'étais à Dakar, où j'avais fait des émissions en public à Lucat, à l'université Cheikh Anta Diop, devant des étudiants, et vous nous aviez raconté, c'était à la fin du mois de mai, et vous nous aviez raconté ce qu'il faut faire de façon très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de jouets, des cubes hyper sophistiqués et des pulses pour justement développer l'intelligence des tout-petits.
Tout à fait, merci Claire. Disons que le premier conseil que nous pouvons donner aux parents, c'est qu'il faut que les parents parviennent à se projeter. Le petit être qui est là va grandir dans 6 mois, dans 6 ans, dans 60 ans, ce sera quelqu'un d'autre. Et de la même façon que quand vous plantez une semence de tomate, vous ne récoltez pas les fruits tout de suite, mais ça prend un an, un mois, deux mois. Donc quand on communique avec l'enfant, vous allez voir que ce qui est blablabla, et va donner plus tard, dans un an, va donner des mots concrets. Mais ces mots-là, quelque part, si nous parvenions à utiliser un décodeur qui nous permet de comprendre le langage des enfants, on les aurait trouvés dès les premières semaines où l'enfant avait commencé à faire les blablabla. Mais ce décodeur-là, pour le moment, nous n'avons pas su le créer, nous n'avons pas su l'inventer. Donc, il faut que les parents comprennent que l'enfant est en train de communiquer en permanence. Tout est communication. Dans la façon de changer les couches, il y a de la communication. Dans la façon de dormir, il y a de la communication. Dans la façon de manger, il y a de la communication. Mmh. En réalité, on ne peut pas arrêter de communiquer avec l'enfant. 24 heures sur 24, même la façon de s'approcher de l'enfant pendant qu'il dort, c'est de la communication. Donc ça, c'est une information importante que les parents doivent savoir.
Connaître,
et que l'enfant, il se développe de façon très intelligente. Il est plus vital pour lui de comprendre ce que l'on dit que de parler. Donc ça, c'est une intelligence très, très élevée. Et une dernière chose, c'est que si l'enfant, lui, cherche à comprendre et que l'adulte cherche à expliquer, il devrait pouvoir se retrouver. Si l'enfant ne comprend pas, c'est certainement parce que l'adulte a mal expliqué.
C'est très important. Merci beaucoup, Ibrahim Mejirou. On a au téléphone, restez peut-être en ligne parce que vous aurez envie de rajouter une réponse, Sergio qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Sergio, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Sergio.
Oui, bon, je ne suis pas marié, mais j'ai un neveu de 4 ans et nous sommes ensemble. Et quand on lui parle, il est un peu têtu. Et quand vous lui dites quelque chose, il peut le contraire. Et comme le droit de l'homme, refuse qu'on tape les enfants. Et maintenant, je demande quelle est la manière de l'aborder pour qu'il soit obéissant.
Oui, c'est ça. Vous entendez bien qu'il ne faut pas taper l'enfant, mais comment faire? Mais vous êtes d'accord sur le fait qu'il ne faut pas taper l'enfant, Sergio, ou pas?
Bon, je n'ai pas encore tapé tout cela.
Alors, je voudrais une réaction par rapport à ça, Gérard Bonnet. Comment faire? C'est une vaste question. Hein. Comment faire pour se faire obéir sans taper? On est bien d'accord.
Oui.
Pourquoi la tape est inutile et inefficace?
Parce que ça crée...
Il ne connaît pas son histoire, cet enfant.
Oui, alors attends. Mais il faut d'abord tenir compte du fait qu'une violence ne résout rien. Elle casse la relation, hein, elle remet l'enfant à sa place, mais bon, ça peut arriver, hein, il ne s'agit pas de traumatiser l'enfant. Et même si ça arrive, qu'on le parle après, en disant « excuse-moi, mais là, c'était plus fort que moi, et tu m'as poussé à bout ». Maintenant, là...
Monique Bonnet, vous vouliez
réagir. Voilà ce que tu voulais dire, là.
Je ne sais pas, nous ne savons pas pour autant si cet enfant connaît son histoire, puisqu'il a 4 ans, c'est votre neveu, il est turbulent, il a quelque chose à dire. Et il attend qu'on lui dise aussi quelque chose, à mon sens.
Donc, de chercher à comprendre pourquoi il est turbulent.
Voilà.
Gérard Bonnet,
à cet âge-là, il se passe quelque chose dans la famille, hein, qui fait qu'il s'impose par sa turbulence, il encombre le monde. Et je crois que si on arrivait à trouver un peu ce qui le rend comme ça, ça faciliterait beaucoup les choses.
Merci beaucoup, Sergio. On va prendre une dernière question avec Alain, qui nous appelle de Nzérégoré en Guinée-Conakry. Alain, bonjour.
Bonjour, Pierre-Jean.
Parlez bien près du téléphone, Alain, pour qu'on vous entende.
Bien, au fait, j'ai un bébé de 2 mois. Et je communique avec l'enfant lorsqu'il travaille en train de travailler. Mais je constate un fait. En fait, quand je communique avec lui, comment je m'exprime, il était, il m'observe, il me regarde. Après avoir donné tout le coup, par après, il sourit, mais il ne sourit plus, il balbutie. Vous voyez? Donc, la première question, c'est de savoir.
Donc, vous échangez avec lui. Donc, vous avez eu un petit bébé qui a 2 mois. Hein, et vous aimez parler avec lui, vous lui racontez des histoires, et voilà, vous sentez qu'il se calme, qu'il a l'air de vous écouter.
Effectivement. Donc, la question, c'est de savoir, en premier, est-ce qu'il est capable d'analyser mes propos? Et la deuxième question, est-ce que sera-t-il maîtriser la langue que je lui parle lorsqu'il grandira?
Alors, Monique Bonnet, peut-être sur la première question, est-ce qu'il est capable d'analyser mes propos? Non, pas jusque-là.
L'enfant cherche toujours à comprendre. Depuis qu'il est petit, il est observateur, il est sensible et il cherche à comprendre. Mais
là, il est vraiment très petit, là.
Il est, oui, mais déjà tout petit, il cherche toujours à comprendre. Est-ce qu'il vous comprend? Il comprend votre ton, il sent sans doute même vos hésitations, à mon sens, mais... que lui dites-vous? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre?
Et Gérard Bonnet, deuxième question, ça va l'aider à maîtriser la langue après qu'on lui parle?
Absolument. Ça lui donne comme quand on bâtit un bâtiment, on commence par mettre des fondations.
Oui.
Ça lui donne des fondations.
Et c'est bien ça l'intérêt.
Extrêmement solide.
Merci beaucoup Alain. On arrive à la fin de cette émission. J'aurais quand même quelques questions précises à vous poser. Quels sont les écueils à éviter dans ce dialogue avec les tout-petits?
Commence.
Gérard Monique Bonnet.
Bon, la première, enfin, c'est bien évidemment de prendre l'enfant comme confident.
Oui.
Ça, c'est une première chose capitale. Quand ça va pas, on peut lui dire. Je suis pas très en forme, mais pas lui raconter nos malheurs. Hein.
Premier point.
Il est pas là pour ça. Voilà. T'en as peut-être un autre.
Monique Bonnet.
Être vrai avec l'enfant.
Oui, ne pas raconter de fausses.
Est-ce qu'il faut tout expliquer? C'est l'éternelle question.
Non, pas expliquer.
Oui.
Informer n'est pas expliquer.
Voilà.
Et puis dire les choses progressivement. Parce qu'à chaque âge, l'enfant peut comprendre différemment. Donc, il faut lui donner des explications au fur et à mesure qu'il grandit et complémentaires.
Et ne pas se moquer, vous dites aussi.
Alors, surtout. Là, on ne se rend pas compte quelquefois qu'on plaisante entre adultes, gentiment. On lui met des sobriquets. Ça peut être très, très dangereux par la suite.
Merci beaucoup à tous les deux, Monique Bonnet et Gérard Bonnet. Je rappelle que vous avez publié « Comment parler aux tout-petits ». C'est un livre qui paraît aux éditions In Press. Et on retrouve Jean-Marc Sen. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Claire.
Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Vous nous expliquez régulièrement les nombreux bienfaits reconnus de l'activité physique. Et aujourd'hui, vous allez nous dire si ces activités sont possibles chez la femme enceinte. Alors d'abord, est-ce que c'est bénéfique, même pour la femme enceinte?
Et oui Claire, il y a vraiment plusieurs études, y compris des études récentes, qui montrent l'effet vraiment bénéfique d'une activité physique au cours de la grossesse. Alors, lorsque la grossesse est normale et que l'activité physique est bien adaptée et pratiquée en douceur, eh bien, ça limite le risque de bon nombre de complications. D'abord, ça, bien sûr, apporte une détente, ça contrôle le poids, la prise du poids pendant la grossesse, ça améliore le bien-être, l'humeur, ça diminue l'anxiété, ça diminue les nausées, le diabète gestationnel, ça diminue la fatigue, les douleurs, notamment lombaires, et la constipation. Donc, beaucoup de bonnes choses à l'activité physique.
Mais j'imagine qu'il y a quand même des précautions à prendre et puis peut-être des activités à éviter, docteur Jean-Marc Sen.
Absolument. Alors avant toute chose, il faut absolument consulter son médecin, gynécologue ou sage-femme qui suit votre grossesse pour vérifier que l'activité sportive n'est pas contre-indiquée. Alors d'une manière générale, il est conseillé de ne pas faire plus de 2 jours de suite des activités physiques intenses et plutôt favoriser des activités physiques douces. Alors à partir du 5e mois de grossesse par exemple, pas de vélo ou de course à pied. Certains sports sont déconseillés même, et ça dès le début de la grossesse. C'est tous les sports qui vont provoquer des secousses, des chocs, des chutes. Donc les sports de combat, le ski, l'escalade, le VTT, tout ça non. Ainsi que la plongée sous-marine aussi, on va éviter tout ça pendant la grossesse.
On a compris tout ce qu'il fallait pas faire, mais quelles sont les activités justement qui sont préférables et surtout on les pratique comment?
Alors pour les femmes qui sont déjà sportives avant la grossesse, il faut simplement réduire réduire légèrement l'activité physique habituelle, tout en maintenant des activités douces et de renforcement musculaire, parce que ça va entretenir la bonne condition physique, et ça, c'est tout à fait favorable. Pour les femmes qui étaient non sportives, c'est quand même intéressant d'inciter à une pratique d'activité physique légère, par exemple 15 minutes d'exercice 3 fois par semaine, puis ça pourra aller jusqu'à une demi-heure 4 fois par semaine. Alors les deux activités particulièrement conseillées, c'est la marche et la natation. La marche parce qu'on peut facilement doser ses efforts. La durée et la difficulté de la marche peut être parfaitement maîtrisée, et donc il faut juste porter des chaussures qui maintiennent bien les chevilles, ne pas être dans des terrains accidentés pour éviter justement les chutes, bien maintenir le dos parce qu'on sait aussi que les lombalgies sont fréquentes, notamment parce qu'il y a une modification du centre de gravité au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse. La natation est aussi très bonne, elle assouplit les articulations, elle tonifie les muscles. Alors évidemment, il faut pas aller plonger, pas faire d'apnée, de compétition. Il faut plutôt privilégier le dos crawlé, la brasse creuse également les lombaires, et là aussi c'est pas très bon pour le dos. Et puis il y a l'aquagym qui est très bien, ou bien les préparations d'accouchement en piscine qui sont d'excellentes activités. Alors parmi les autres sports qu'on pourra faire, il y a la gym douce, le yoga, la danse, à condition qu'on fasse pas de sauts ou d'éléments qui soient trop intensifs. Normalement, en faisant toutes ces activités, on doit pouvoir suivre une grossesse sportive en toute sécurité.
Merci docteur Jean-Marc Hessen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, et on retrouve comme d'habitude cette chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Et demain, nous parlerons sexualité avec le retour du docteur Catherine Solano pour la rentrée. Et bien sûr, on attend vos questions au 33 1 84 22 75 75 et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Bonne journée à tous, merci à toute l'équipe de Priorité Santé. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.